Je vous invite à suivre à présent l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Hirung à la présentation.
Bonsoir, la compagnie aérienne congolaise Ewabora interdite d'atterrir à Bruxelles. Comment comprendre cette décision et que faire pour que les compagnies aériennes congolaises soient autorisées à voler vers l'Europe? Nous recevons trois invités dans cette émission. Stavros Papaioannou, président de la compagnie congolaise Ewabora, il est avec nous dans ce studio. Bonsoir, monsieur Stavros.
Oui, bonsoir.
Lesse Njima Ikwame, député national, ancien président, délégué général de la Régie des voies aériennes et professeur de droit aérien dans plusieurs universités de Kinshasa, il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Jacques Joly, professeur de droit, sénateur et vice-président de la Commission Défense, Sécurité et Surveillance des Frontières au Sénat, il est en ligne. Bonsoir, professeur.
Bonsoir,
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission, réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Voilà, nous avons, comme annoncé dans ce studio, Stavros Papaioannou, patron de Ewabora. Votre compagnie est interdite d'atterrir à Bruxelles. Vous avez semblé à un moment contourner la liste noire de l'Union européenne interdisant aux avions congolais d'atterrir en Europe, en concluant un partenariat avec Rak Airways, une compagnie d'Émirats Arabes Unis. Et ce partenariat vous a permis d'ouvrir la ligne Kinshasa-Bruxelles avec un avion sous contrôle de navigabilité du Sao Tomé et Principe. Mais ce sont les autorités du Sao Tomé et Principe qui, il y a 4 jours, ont suspendu l'autorisation de Ewabora de voler vers l'Europe. Comment vous expliquez cette situation?
Ok, nous commençons par la fin. Donc, il faudra vous dire ceci, il faudra vous donner quelques explications. Donc, le problème aujourd'hui de Sao Tomé, c'est qu'ils ont reçu des menaces et des pressions de la part des autorités belges, des pressions qui étaient tellement fortes qu'ils ont cédé. La pression était la suivante. Donc, ils leur ont dit ceci, si vous, Sao Tomé Principe, vous continuez à donner des avions à Ewabora Airways, qui eux se trouvent déjà dans un pays où tout est blacklisté, eh bien nous allons mettre vous aussi votre pays sur blacklist. Au début, dans un premier temps, Sao Tomé Principe n'y a pas cru, et le Portugal, le directeur général de l'aviation civile du Portugal, a contacté le directeur général de l'aviation civile de Sao Tomé et dit, écoutez, faites très attention, prenez la menace belge très au sérieux, parce que si jamais ils présentent votre nom à la commission de safety, donc de l'Union Européenne de la liste noire, nous ne saurons pas vous sauver. Et eux, ils sont décidés à vous faire mettre sur la blacklist. Ils sont tombés à céder à la pression, ils nous ont appelés, ils nous ont dit, écoutez, nous allons vous suspendre sur la Belgique. Vous pouvez faire tout le reste, sauf la Belgique.
Tout le reste de
du monde.
Du monde.
Du monde. Du monde. Toute la planète, à l'exception de l'Europe. Et nous allons voir si plus tard on peut trouver une solution. Mais dans un premier temps, nous allons suspendre cela. Et dans un message, dans un commentaire, à la lettre, ils nous disent, écoutez, tout ça était dû à la pression extraordinaire qu'a exercée la Belgique sur nous.
Voilà. Avant de donner la parole au professeur Jacques Joly, Stavros Papaioannou, on a remarqué à certains moments beaucoup de manœuvres de la part de Ewabora pour contourner cette blacklist, comme on l'appelle, avec des partenariats, entre autres, avec SN Bruxelles, à un moment pour créer RDC, cette compagnie des Émirats Arabes Unis. N'est-ce pas une forme de tricherie que de contourner, en passant par le Sao Tomé Principe?
Écoutez, il n'y a aucune tricherie, c'est légal. À partir du moment où vous dites, vous ne pouvez pas faire ça, mais vous pouvez prendre telle route, mais pas cette route-là, ben, je dis que nous avons suivi la voie légale. Il n'y avait pas de... Parce que lorsque vous parlez, vous dites que c'était une manœuvre contournée, tout ça, quelque part, il y a comme si c'était une magouille. Ce n'est pas magouille du tout, c'est la voie légale qui nous a été autorisée pour pouvoir continuer à travailler.
Professeur Jacques Joly, vous êtes enseignant de droit, sénateur et vice-président de la Commission Défense, Sécurité et Surveillance des Frontières au Sénat. Comment vous percevez, vous expliquez-vous cette situation tout en suivant ce qu'a dit Stavros Papayoannou?
Merci beaucoup. Je crois que en suivant votre présentation et le responsable de EWADORA, je perçois comme premier élément d'abord la dimension sécuritaire. Il est évident que sur les plans sécuritaires, la gouvernance de notre secteur aérien, comme la gouvernance globale du pays, pose un certain nombre de problèmes. Vous allez vous en rendre compte par le nombre d'accidents d'avions qui arrivent sur notre ciel aérien, sur la qualité de nos avions qui volent et sur la nécessité qui nous a par exemple été présentée d'élaborer rapidement un code d'aviation civile. Donc la problématique de l'insécurité aérienne dans notre pays est une évidence et d'autres pays sont obligés, n'est-ce pas, de prendre leurs précautions. Mais sur le plan politique et économique ou d'intelligence politique, je suis un peu malheureux de voir que la société est en train de se battre seule dans un environnement où une société de droit belge, SN, qui a été fabriquée, excusez-moi les termes, par la Belgique pour sauver, n'est-ce pas, son économie de transport aérien. Et cette société est soutenue par les institutions belges et de l'Union européenne dans un vide total, n'est-ce pas, de politique nationale en matière de transport aérien interne et international. Donc, le lac sont mortes, comme la société lac est morte, et ces travailleurs attendent depuis 2 mois un salaire hypothétique. Et de ce côté-là, il n'y a aucune vision, aucune approche pour, n'est-ce pas, nous dire quel type de société aérienne nationale on va mettre en place. Parce que malgré la mutation, Air France existe, Lufthansa existe, British existe. Alors, maintenant nous n'avons pas de société aérienne. Et voilà un particulier qui tente, n'est-ce pas, de se sauver à ce que vous appelez, à recourir à ce que vous appelez de manœuvre, mais... Il est obligé de survivre et il est obligé d'aller chercher des licences, des couvertures en Arabie Saoudite. Alors ça, Tomé Principe sur la scène internationale. Où est le Congo dans tout cela?
Professeur,
où est le ministre des Transports? Où est la politique nationale dans tout cela? C'est ce qui est malheureux.
Professeur Jacques Joly, donc si je vous comprends, vous adoptez pratiquement la position de EWABORA selon laquelle cette affaire est politisée.
L'affaire n'est pas politique, mais pas de la politique politique, c'est de l'intelligence économique et politique globale d'un État ou d'une nation. Quelle est notre vision dans la défense de notre économie? Nous avons un marché, c'est chaque jour que SN envoie un avion sur Kinshasa. Qu'est-ce que nous gagnons en retour? Peut-on nous dire quelles sont les compensations que la République touche dans la transformation de cette présence massive de la société belge et même française? Combien d'avions congolais atterrissent à Charles de Gaulle, à Zaventem? C'est une honte, je suis désolé de vous le dire comme cela.
Merci.
Et voilà que cette société congolaise qui tente de se dérouiller, on ne sent aucun soutien. Moi je suis déçu, je suis malheureux.
Il n'y a aucune
intelligence politique et aucune intelligence économique. C'est ça ce que doit faire le service de sécurité. Étudier la compétition internationale en matière économique. On est passé de la géopolitique à la géoéconomie. Est-ce que nous avons fait cette imitation?
Merci, professeur Stavros Papayoannou. Je vous ai vu très content, parce que le professeur Joly a pratiquement abondé dans le même sens que vous. Mais cette interdiction, en dehors des aspects politiques à visée économique que vous relevez, n'est-elle pas liée à la sécurité de nos avions, comme l'a dit d'une part le prof Joly, à la qualité de nos avions, à la dimension sécuritaire?
Ok. Laissez-moi d'abord vous répondre ceci. Premièrement, dans l'aspect économique, tel qu'a sauvé le professeur, il faut savoir que, comme je vous ai dit, la compagnie Brussels Airlines, elle vend 100 000 coupons par an de Bruxelles sur Kinshasa. C'est 100 000 coupons. Ces coupons-là sont évalués aujourd'hui à 1 000 dollars le coupon. Donc c'est un marché de 100 millions de dollars par an pour Brussels Airlines. Le fait que nous soyons sur le marché, Bruxelles Airlines a dû nous faire concurrence et a fait chuter les coupons à moitié prix. Nous sommes à 5 ans. Ça veut dire que nous sommes à 50 millions de dollars seulement sur le marché. C'est-à-dire que Brussels Airlines, c'est 50 millions de dollars en moins par an. 50 millions de dollars, c'est exactement les pertes de Brussels Airlines qu'elle va annoncer sur l'année 2009. En d'autres mots, pour prendre un raccourci, Brussels Airlines, pour éviter une perte de 50 millions de dollars en l'année 2010, il suffit que par magie, on enlève Ewabora sur le circuit, qu'on remette, qu'on laisse seulement Brussels Airlines elle-même, elle va remettre ses coupons à 1000 dollars le coupon, et automatiquement, elle aura déjà comblé son déficit. Ça, c'est le premier cas. Vous soulevez le cas de la sécurité. Seulement, si vous dites ceci, c'est que le pays a fait énormément de progrès en matière de sécurité aérienne. Vous avez suivi, vous aussi, c'est vrai qu'on disait avant qu'il y avait beaucoup d'avions qui faisaient des accidents. Vous avez suivi vous-même que le pays a fait quand même énormément d'efforts dans ce domaine-là. D'autre part, nos avions, ils ont été l'objet de contrôles, de 4 contrôles en Europe. 2 à Paris et 2 à Bruxelles. L'objet de la suite de ces contrôles-là a été que la France nous a écrit en nous complimentant et en disant que nos avions étaient parfaits. Ils répondaient à leurs normes. Alors, la sécurité n'étant plus là, elle reste maintenant un autre mobile. Le mobile, c'est les 100 millions de dollars.
Voilà, la réalisation me signale que nous avons toujours beaucoup de mal à joindre le député national, le Senjima Ikwame, ancien président délégué général de la Régie des voies aériennes et professeur de droit aérien dans plusieurs universités de Kinshasa, s'il nous suit en ce moment, qu'il nous permette de le joindre parce qu'il a donné son accord de principe pour participer à cette émission. La Belgique, que vous accusez, Stavros Papayohannou, a réagi à travers son ambassadeur. La Belgique n'a jamais exercé une quelconque pression sur le Sao Tomé et Principe dans sa décision d'interdire Ewabora de voler en Europe. Ewabora ne peut pas chercher le bouc émissaire ailleurs pour faire face aux problèmes financier auquel elle est confrontée aujourd'hui. C'est en ce terme que peut se résumer la réaction de l'ambassadeur de la Belgique à Kinshasa après les déclarations hier, après vos déclarations même à l'instant sur les pressions que la Belgique a exercées sur Sao Tomé. Je vous invite à écouter Dominique Straude-Suiland, ambassadeur de Belgique, au micro de Kevin Côté.
Je tiens à vous affirmer très clairement, il n'y a de la part de la Belgique aucune interdiction pour Ewabora de voler sur Bruxelles. C'est donc faux de dire que la Belgique a pris une décision d'interdire les vols. Les vols d'Ewabora sont autorisés par la Belgique, puisque nous opérons dans le cadre des relations aériennes, où chaque pays a 5 fréquences. Sur les 5 fréquences congolaises, Ewabora possède 2 fréquences, et donc Ewabora a, dans le cadre de cette fréquence, le droit de voler sur Bruxelles.
Ewabora peut continuer avec ses vols sur Bruxelles.
Je dirais, Ewabora, actuellement, n'a pas de difficultés avec la Belgique. Elle a perdu sa licence de voler sous licence de Sao Tomé et Principe. Mais ce n'est pas une décision que la Belgique a imposée. La Belgique n'est pas intervenue dans la matière, et donc c'est une décision qui a été prise en dehors de toute consultation avec le gouvernement belge.
Voilà, Stavros Papayohannou, vous réagissez au propos de l'ambassadeur belge et nous allons donner la parole au professeur Jacques Joly.
Ok. D'abord, évidemment, les propos de l'ambassadeur belge me font sourire. Vous savez, c'est lorsque un pickpocket vient vous prendre un portefeuille dans la poche, il ne peut pas vous laisser sa carte de visite et un reçu en disant qu'il a pris vos pickpockets. C'est tout à fait normal qu'ils disent qu'ils ne sont pas là. Je vais vous lire ici, si vous permettez, d'ailleurs, je vais vous remettre un document. C'est un document de la VRT, c'est-à-dire de la radio belge, dont c'est une réponse du secrétaire d'État à la mobilité, Étienne Scoop, qui dit ceci. L'appareil de Ewabora a déjà été contrôlé plusieurs fois à Bruxelles et à Paris. Et il n'y avait pas de raison de bloquer l'avion au sol. Mais, c'est toujours lui qui dit, Étienne Scoop, l'Europe va très prochainement étudier comment les compagnies aériennes de Sao Tomé devront être aussi mises sur la liste noire. Ça, c'est eux qui disent, c'est leur patron qui dit que ils vont étudier comment ils vont nous mettre sur la liste noire. Alors évidemment, ils nous prennent vraiment pour des pingouins lorsque on nous dit que nous...
Et c'est des gros termes, hein. Vous êtes très suivi, Stavros Papayohannou.
Oui, mais bon, c'est révoltant. Oui, d'accord. Mais disons que c'est quand même révoltant lorsque on nous prend vraiment pour des gamins, lorsqu'on nous dit, écoutez, la Belgique n'a jamais rien dit. Bien sûr que la Belgique, c'est pas la Belgique qui nous avait, mais c'est la Belgique qui a fait la pression. Elle le dit par son ministre lui-même, il le dit ici dedans. Alors, faut pas quand même exagérer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il faut pour les autorités congolaises pour se rendre compte de cette manigance? Qu'est-ce qu'il vous faut encore en plus? Nous avons les documents. Qu'est-ce qu'il vous faut plus que ça?
Professeur Jacques Joly.
Je crois que le PDG vous a donné un élément sortant, n'est-ce pas, de la déclaration du ministre belge de la Mobilité. Et moi, je voudrais seulement vous dire que dans l'histoire politique et diplomatique de la RDC, dans toutes les négociations, Sabena faisait toujours, n'est-ce pas, l'objet de négociations. Enfin, dis-moi, Lélie, vous savez que très souvent, les présidents Mobutu, dans les négociations, commençaient toujours par bloquer le vol de Sabena sur Kinshasa. Tout le monde n'ignore point comment la ligne Kinshasa-Bruxelles est importante pour la SN. À un certain moment, on a tenté de faire le pool à partir de la Guinée, ça n'a pas marché. Donc, il faudra qu'on soit clair. Mais ce qui est normal pour moi, c'est que le gouvernement belge tente de sauver, n'est-ce pas, une société belge qui a des difficultés, comme elle a tenté de sauver une sortie sous toute autre banque belge lorsqu'elle a des difficultés. Et c'est dans leur approche, n'est-ce pas, de la protection de leur économie. C'est à nous maintenant, nous politiques congolais, de savoir ce que nous faisons. Est-ce que nous restons dans ce vide ou dans cette vacuité des politiques où nous soutenons une société, même si elle n'est pas nationale, mais enfin elle n'est pas une société publique, mais une société de droit congolais qui est en difficulté. Demandez quand même, donc il n'y a aucune action. C'est comme si ben, ça ne nous intéresse pas, alors que le droit de survol et autres droits aériens qui sont liés, les avantages économiques. Si aujourd'hui Ewabora connaît les difficultés, mais combien de personnels congolais seront mis au chômage, comme déjà LAC ou Air Congo, je ne sais pas, a des difficultés. Donc il faut une approche. Et comme je vous l'ai dit, c'est un problème d'intelligence économique. On ne va pas venir sur la place publique crier que c'est nous qui sommes derrière cette manigance ou qui sommes partis à Sao Tomé. Et c'est là aussi mon inquiétude. Si Ewabora est obligé d'aller négocier comme ça, seul, avec Sao Tomé et Principe, quel est le poids économique de Sao Tomé et Principe sur la scène internationale? Est-ce que ce pays peut résister sur la scène internationale face à la Belgique? Et vous comprenez pourquoi le Portugal, qui a été approché par la Belgique, a dû conseiller, n'est-ce pas, Sao Tomé de la prudence. Donc tout cela se résume à une chose. Il faut une politique nationale en matière de transport en général, le transport aérien. Ce qui est dit pour la ligne Bruxelles-Kinshasa peut être dit aussi sur l'ensemble du territoire national où on ne sent aucune politique nationale à part les autonomes où les gens se débrouillent seuls. Où est l'État dans tout cela?
Merci.
Où est le gouvernement dans tout cela? Où est le ministre de transport de tout cela? Où est le ministre de l'économie dans tout cela?
Merci.
Voilà le problème.
Je rappelle que nous continuons à chercher à atteindre le député national de Saint-Gina et Kwame. La réalisation me signale qu'il est en train de rejeter les appels s'il peut permettre que l'on puisse l'atteindre parce qu'il a donné son accord de principe. Il est député national, ancien président délégué général de la Régie des voies aériennes et professeur de droit aérien dans plusieurs universités de Kinshasa. Les auditeurs sont très nombreux à réagir à ce sujet. C'est le cas de Divette Shakira de Goma au Nord Kivu, elle dit « Nos compagnies aériennes sont tellement égoïstes car l'état dans lequel se trouvent les avions est déplorable. C'est plutôt le gain qui les intéresse plus. Ils ne tiennent pas compte de l'amortissement avancé de leurs appareils. Ils doivent se comporter en responsable pour être acceptés dans l'espace international. Nous prenons des risques chaque fois que nous voyageons par air. » Uchai Babi de Bounia en province orientale lui dit « La situation que connaît Ewabora n'est pas effrayante car cette décision avait déjà frappé beaucoup de compagnies congolaises. Cela prouve la négligence de nos autorités. La solution serait de créer un organe de contrôle technique spécial et autonome des compagnies congolaises en général. » Savos Papayoanou, patron d'Ewabora, comment vous réagissez à cette première vague de réaction des auditeurs?
Bon, je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait des auditeurs qui puissent être inquiet. Vous savez, l'avion a toujours effrayé les gens. C'est pas seulement quelque chose ici au Congo, c'est partout dans le monde. L'avion fait peur, c'est un phénomène que vous suivez. Pour le moment, il y a des séries de air crash où tout le monde est en train de suivre, etc. L'avion fait peur. Il y a un traumatisme, c'est tout à fait normal que les gens s'inquiètent, et j'estime que c'est tout à fait fondé la volonté de certaines personnes de demander de faire des meilleurs contrôles, et ça c'est normal, c'est tout à fait légitime.
Il y a en plus un professeur Jacques Joly, Raphaël Louaba de Lubumbashi au Katanga, qui dit cette interdiction est le résultat des appareils bien connus en Europe et en Serbie pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, ils continuent de voler ici chez nous.
Il y a un problème, n'est-ce pas, de contrôle et de sécurité, comme je vous ai posé, je l'ai dit au départ. Mais c'est, tout cela fait partie d'une absence, d'une vision d'une politique, comme je vous ai dit. Le transport aérien, c'est un transport qui est c'est un secteur très, très sensible aujourd'hui. Beaucoup de sociétés disparaissent parce que les coûts d'assurance, le coût de combustible, de carburant, ça coûte très cher pour soutenir une compagnie aérienne. Et vous avez vu qu'il se montre d'énormes stratégies autour de l'intégration des sociétés aériennes. Air France avec les Hollandais et d'autres, ils créent des alliances, que ce soit à l'Italie dernièrement, vous avez senti que le gouvernement italien a refusé que Air France puisse racheter, n'est-ce pas, leur société aérienne. C'est ça la vision d'un État. Et c'est ce que nous déplorons. Aujourd'hui, tout ce que nous disons, l'insécurité, l'absence, la faiblesse des Wabora, Sao Tomé Principe, le recours aux imams, démontre une chose, l'absence, n'est-ce pas, d'une politique nationale. C'est là où nous attendons le gouvernement, c'est là où nous déplorons l'immobilisme, ici comme ailleurs. Et nous aimerions que, pour ne plus que ces cas, on puisse aider Ewabora. Nous voyageons parfois sur Sabina. Vous savez, à l'aéroport des Lamentem, on nous met, on marche, le Congolais sont transportés dans un coin très loin là-bas. On doit marcher, on doit faire le tour de l'aéroport. Tout simplement parce qu'il n'y a même pas un schéma national pour qu'on puisse prendre au sérieux alors qu'on a payé les billets qui coûtent énormément cher. Le vol qui vient à Bruxelles, c'était le vol le plus cher du monde. N'est-ce pas? Les Congolais ont des difficultés à voyager. Il faut 1 400 à 1 500 $, alors que pour quitter Paris-Bruxelles ou Paris-Dakar, c'est parfois d'aller 300 $.
Professeur Joly, il y a Camus Kabamba de Kananga au Kasai Occidental qui dit « Le gouvernement congolais doit aussi réagir en interdisant l'atterrissage des avions belges ici en RDC, car cette mesure belge vise à déstabiliser l'économie de notre pays. » Une brève réaction, pensez-vous que c'est faisable?
Mais moi, je n'irai peut-être pas sur l'interdiction formelle, mais sur une approche, une réaction, sur une volonté de protéger l'industrie et les sociétés nationales. Parce qu'il s'agit d'énormes intérêts, et l'intérêt national est là. Et un gouvernement doit avoir pour ligne première d'action la défense de l'intérêt national.
Merci.
Peut-être pas y aller jusqu'à interrompre, mais il faut chercher à équilibrer. Leur ambassadeur a dit qu'ils ont 5 rotations, nous avons 2. Il faut qu'il y ait équilibre, il faut que le gouvernement congolais qui cherche l'argent, c'est un secteur porteur sur lequel il peut trouver l'argent.
Stavros Papayoanou, le professeur Joly est revenu plusieurs fois sur la réaction du gouvernement, mais aujourd'hui, vous ainsi que l'ambassadeur belge, vous avez rencontré le premier ministre Adolphe Mozito. Qu'est-ce qui est sorti de cette rencontre?
D'abord, je voudrais rectifier quelque chose. C'est vrai qu'il y a 5 fréquences par pays. Mais par une certaine, je veux dire complaisance, la Belgique aujourd'hui a 7 fréquences sur les 10, et nous n'en avons que 2. Il y a déjà, de ce côté-là, il y a déjà une entorse, il y a déjà un déséquilibre qui est créé là-bas. Nous avons dénoncé cela, nous sommes devant les cours des tribunaux européens pour justement dénoncer ça, parce qu'ils agissent ici en position monopolistique et en position dominante. Maintenant, nous essayons de trouver une solution de ce côté-là.
Mais je voulais poser une autre question sur la rencontre que vous avez eue aujourd'hui, vous, l'ambassadeur belge et le premier ministre. Qu'est-ce qui est sorti de cette réunion?
Écoutez, dans un premier temps, moi, quand je suis arrivé, l'ambassadeur de Belgique avait réussi à exposer toute sa version des faits sans que je sois là. Donc, je ne sais pas exactement dire ce que lui l'a dit au premier ministre. Mais comment je suis arrivé? J'ai dressé toute la situation, j'ai tout réexpliqué,
Et j'ai senti quand même que le Premier ministre qui était là a été sensible et a demandé quand même à l'ambassadeur de Belgique en disant que cette situation ne pouvait plus durer et qu'il fallait trouver une solution. En tout cas, bon, nous sommes là-dessus. On nous a demandé de faire des propositions pour des solutions. Et bon, nous avons fait des solutions. Nous avons fait des propositions par écrit que nous avons transmises aujourd'hui à la primature. Considérant donc
quelle proposition par exemple.
Ok, la première chose d'abord c'est de pouvoir assurer. Donc il y a des propositions immédiates. Immédiates, c'est-à-dire les passagers qui sont en rade ici ou bien en rade à Bruxelles, de pouvoir les assurer qu'ils rentrent. Ils n'ont rien fait de mal. Et nous n'avons rien fait de mal non plus pour pouvoir démériter et pour pouvoir nous empêcher de pouvoir venir. Donc il faudrait dans un premier temps que le gouvernement s'arrange avec ceux qui sont à la base de ce marasme, c'est-à-dire Bruxelles-Cerlagne, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, eh bien, d'abord qu'ils puissent d'abord rapatrier tous ces passagers qui sont en rade. En deuxième point, ce que nous avons besoin, c'est, dans un moyen terme, c'est de prendre notre avion et de le mettre sur une navigabilité française pour qu'il continue à exploiter. Et la troisième solution, c'est ce que vient de dire le professeur, c'est de pouvoir revoir l'ensemble de notre accord entre la Belgique et nous, parce qu'il est totalement en déséquilibre. On ne peut pas accepter qu'il y ait un pays qui fasse plus. Il n'y a aucune raison que la Belgique fasse plus de chiffres d'affaires que nous, plus de vols que nous, et puis c'est pas normal.
Nous allons prendre la réaction de l'ambassadeur belge par rapport à la rencontre qu'il a eue, lui, avec le Premier ministre Adolfo Muzito. On l'écoute.
J'ai été convoqué ce matin chez le Premier ministre, je me suis rendu avec plaisir. Le Premier ministre y a adjoint le directeur de EWA Bora. Nous avons eu une bonne discussion et le mot d'ordre très clair, nous souhaitons tous abaisser la tension. Personne n'a avantage à créer des escalades. Et donc, à aucun moment, il a été question d'interdire EWA Bora de voler sur Bruxelles. Et à ma connaissance, il n'est pas question d'interdire Brussels Airlines de voler sur Cerlagne.
Vous venez de suivre l'ambassadeur, êtes-vous satisfait?
Bon, c'est sa façon de voir, hein. Il n'est pas question d'interdire Bruxelles-Cerlagne de venir ici, c'est pas son pays, hein. C'est pas à lui de dire, si jamais nous, notre gouvernement dit vous venez pas, ils vont pas venir, bon, il peut dire ce qu'il veut, hein.
Professeur Jacques Joly, vous avez suivi l'ambassadeur belge et Stavros, patron de Abora, qui étaient tous chez le Premier ministre ce matin. Qu'est-ce que vous en retenez?
Mais moi, je suppose que l'ambassadeur d'un pays aussi important pour les relations diplomatiques entre le Congo et les pays, quand il dit ça, j'espère que ça doit être suivi des faits. Et ce qui nous intéresse, ce sont des mesures concrètes pour que les questions posées par EWA Bora soient résolues. Mais les questions, pour moi, essentiellement de regarder dans notre propre pays quelles sont les mesures qu'il faut prendre à court, moyen terme pour remettre le zèle de la République, n'est-ce pas, sur le cieux. Monsieur, ce n'est pas normal. Une société, tout État, se qualifie d'abord par sa société aérienne. Lorsque nous arrivons dans les aéroports, on est content de voir la société sud-africaine. On est content de voir Kenya Airways. On est content d'avoir Éthiopienne. Aujourd'hui, c'est pas simplement la ligne Bruxelles-Kinshasa. Il y a la ligne Kinshasa-Nairobi-Kinshasa-Addis vers la Turquie, vers la Chine, qui engrange des bénéfices énormes que nous ne fuirons pas. Vous imaginez le fait que le Congolais ramène de Guangzhou, que nous n'avons qu'une société. Et la ligne Kinshasa-Johannesburg engrange énormément de bénéfices. La dynamique qui se joue dans la sous-région. Mais tout cela, nous regardons ça d'un œil impavide et totalement désarmé. C'est ce qui m'étonne. Il n'y a aucune démarche. Vous voyez, même si on peut tout reprocher à Mobutu, mais ce monsieur, vous voyez la grandeur du Congo en termes de décennies, en termes de Boeing. On a peut-être mal géré. Mais on avait la fierté d'être zaïrois à l'époque pour cette société.
Merci.
Où est partie cette fierté? Ça n'existe pas. Sommes-nous vraiment devenus ces gens qu'on chasse de tous les pays du monde, tout simplement parce que nous sommes congolais?
Merci, professeur. Stavros, il y a Jean-Claude de Mahagui en province orientale qui s'adresse à vous. Ewabora devrait quand même faire montre qu'elle est une bonne compagnie, comme l'indique son nom, en ayant de bons appareils capables de séduire le monde étranger.
Ok. Je pense qu'aujourd'hui, notre avion, le 767 qui est là, est un avion d'abord qui est toujours construit chez Boeing. C'est un avion qui est d'actualité. Et c'est un avion qui, sincèrement, nous n'avons pas honte de montrer notre avion aujourd'hui dans le monde, le 767. Mais je voulais quand même vous rappeler que dans ce que vient de dire aussi le professeur tout à l'heure, que Ewabora, non seulement que nous faisons nos vols, mais quand il y a eu la guerre dans ce pays, nous étions les seuls à épauler le pays. L'armée n'avait aucun avion. Nous avons fait nous tous les vols militaires. Nous avons eu un avion qui a été descendu à Kindu en octobre 98. Nous n'avons jamais été payés de cet avion. Nous n'avons pas touché un dollar de cet accident-là. Nous avons toujours fait tout ce que le pays nous a demandé. Et maintenant, qu'il s'agit que le pays puisse nous rendre l'ascenseur en nous aidant, nous ne demandons pas le monde, c'est le droit. De nous remettre dans notre droit, on ne nous regarde pas. Vous ne croyez pas que là, il y a un manque de gratitude quelque part?
Il y a Paterne Inga de Goma en or qui vous, qui s'adresse encore à vous, Stavros Papayoanou, patron d'Ewabora. Avant de survoler l'espace européen, n'est-il pas bien d'adresser une demande? Pourquoi aller ouvrir des lignes à l'extérieur au lieu de le faire chez soi à un coût raisonnable?
Ok, mais il a parfaitement raison. Nous avons fait la demande. Et la demande, elle a duré un mois d'études. Et c'est après un mois d'études que les Français nous ont répondu d'abord, les premiers, en disant « Ok, votre dossier est au complet et vous pouvez venir ». Donc, je réponds à l'auditeur que nous avons fait la demande, justement.
La compagnie aérienne congolaise Ewabora interdit d'atterrir à Bruxelles. Comment comprendre cette décision et que faire pour que les compagnies congolaises soient autorisées à voler vers l'Europe? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce soir. Deux invités, malheureusement, au lieu de trois, participent à cette émission. Stavros Papayoanou, président de la compagnie congolaise Ewabora. Jacques Dioli, professeur de droit, sénateur et vice-président de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. Nous continuons malheureusement à chercher à joindre le député national Lesengina Ikwame, ancien président délégué général de la Régie des voies aériennes et professeur de droit aérien dans plusieurs universités de Kinshasa. Vous souhaitez réagir à cette émission? Voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Et si vous nous suivez sur Internet, vous nous écrivez à bec@radiocapi.net. Décision des autorités belges soulève de nouveau la problématique des compagnies aériennes congolaises blacklistées au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire interdites de vol sur l'espace européen. Que faut-il pour permettre aux avions congolais d'atterrir de nouveau sur le sol européen? Tentative de réponse avec Axel Gonzo.
Pour rendre de nouveau les avions congolais viables, la solution réside dans l'amélioration du système de supervision de la sécurité aérienne selon des experts. Pour ce faire, poursuivent-ils, le rôle de l'autorité de l'aviation civile congolaise est indispensable. Premier pas à franchir, doter la RDC d'une réglementation aérienne adaptée aux technologies et aux normes internationales modernes. Des mesures d'assainissement drastiques doivent être prises. La loi sur l'aviation, actuellement en cours, date de 1955. Elle est jugée obsolète par ses experts. Un nouveau projet de loi se trouve actuellement à l'Assemblée nationale. Autre défi à relever, la formation du personnel devant assurer l'inspection des avions et l'approvisionnement en équipement adéquat pour cette tâche. Pour ce qui est de la blacklist de l'Union européenne, une commission d'audit est en préparation selon des sources proches de l'autorité de l'aviation civile congolaise. Objectif, permettre à l'Union européenne de venir inspecter les aéronefs congolais ici sur place. Sur cette liste noire figurent des compagnies qui n'existent plus depuis des dizaines d'années, ont dénoncé les mêmes sources. Quant au Boeing d'Ewabora interdit de fouler le sol belge, pas de réaction officielle de l'autorité de l'aviation civile congolaise, l'aéronef étant immatriculé à Sao Tomé et Principe, indique-t-on.
Stavros Papayoanou, en plus des éléments qu'a énuméré notre confrère Axel Gonzo, d'abord, comment vous jugez ces propositions pour rendre plus crédibles les compagnies aériennes congolaises?
Ben, disons que il y a un processus qui est suivi, effectivement, avec l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale pour justement mettre revoir un peu les procédures et la loi ici dans le pays, effectivement. Nous sommes en cours de le faire. Je crois que le Sénat a déjà donné son point de vue et le projet de loi se trouve à la Chambre basse actuellement pour approbation. Effectivement.
Mais vous venez encore de suivre que l'aéronautique congolaise n'a pas pu réagir parce que l'avion était immatriculé à Sao Tomé.
Non, je crois que là ils exagèrent. L'avion était immatriculé à Sao Tomé maintenant le dernier mois. Il était congolais jusque maintenant et nous l'avons immatriculé de l'autre côté justement pour pouvoir sortir de là. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ce complexe. Notre avion, il est parfait, il est en règle, il a été contrôlé par les Français deux fois, contrôlé par les Belges deux fois. Est-ce que vous croyez un seul instant que si jamais cet avion-là avait le moindre défaut, est-ce que vous croyez que les Français qui ont souffert avec Yemenia, qui ont souffert avec la F-447, qui ont souffert avec leur accident à Toronto, qui ont souffert avec l'accident de Air Caribbean, est-ce que vous croyez un seul instant que les Français nous auraient laissé passer si jamais il y avait la moindre défectuosité? Non, c'est impossible. Ils n'auraient jamais laissé passer, au contraire. Ils nous ont félicités. Alors, je pense que là, pour nous, c'est vraiment la preuve que notre avion est conforme. Alors, que disent les Belges là-dessus? Alors, les Belges sont malins. Ils disent, ah non, vous savez, quand on fait des contrôles comme ça, on n'a pas une vision assez complète. Mais si jamais ils tombaient sur un fait, ils allaient dire, ah, l'avion est mauvais. On a fait un contrôle, il est mauvais. Mais quand on fait le contrôle et qu'on voit rien, on dit, ah non, on n'a pas assez vu. Écoutez, il faut quand même savoir ce qu'on cherche. Notre avion est dans un état impeccable. Donc, nous avons fait le maximum pour ça. Il a été entretenu par des sociétés comme Ethiopian Airlines, qui ont reconnu par Boeing, par South African Airways, par Sabena Technique. Avant qu'on prenne cet avion-là, il était entretenu par les Belges eux-mêmes, chez Sabena Technique. Il sortait des hangars de Sabena Technique.
Donc, si je vous comprends, pour vous, pour que les compagnies aériennes, notamment Ewabora, soient rayées de cette liste maudite ou blacklist, pour vous, ça tient juste à un problème de mauvaise foi?
Non, je dis ceci. Qu'est-ce qui est... C'est l'aviation civile congolaise qui a été blacklistée, c'est pas nous. C'est l'aviation civile congolaise qui a été auditée, et c'est suite à l'audit de l'aviation civile congolaise qu'on a blacklisté l'entièreté du pays. C'est pas nous qui avons... Nous n'avons jamais été audités. Il faut bien se mettre d'accord avec ça. C'est facile de nous jeter les pierres, etc. Mais nous n'avons jamais été audités. Je ne dis pas pour ça que nous ne devons pas faire un effort pour changer notre flotte et pour mettre de nouveaux avions. Mais il faut savoir ceci. Si aujourd'hui, moi, je prends un nouvel avion et j'amène ici un nouvel avion qui va me coûter aux environs de 20-30 millions de dollars, le fait simplement de se trouver au Congo, les assurances sur cet avion-là sont aux alentours de 13%. 13%. Par exemple, sur 30 millions, par exemple, ça va me faire 10 millions par an. Le même avion, s'il est exploité en France ou en Belgique, il va peut-être payer 500 000. Et moi, si je vais payer 10 millions, je vais payer 20 fois plus. Donc, vous comprenez que de là, ça devient la première difficulté que nous avons, c'est de pouvoir obtenir des conditions de pouvoir exploiter, même si l'avion est nouveau. Vous comprenez? C'est très difficile pour nous pour pouvoir exploiter. Et nous cherchons aussi, comme l'a dit le professeur, nous cherchons un gouvernement qui puisse nous fixer le cadre justement là-dedans, parce que dans le cadre il y a tout ça, il y a les assurances, il y a la loi, il y a les aéroports, c'est tout ça que nous avons besoin pour opérer.
Professeur Jacques Joly, la loi, le projet de loi sur l'aviation au niveau du Parlement ne devrait-elle pas figurer parmi les priorités d'après vous?
Non, la loi figure en priorité parce que il y a effectivement des menaces encore davantage sur le secteur aérien congolais, et nous avons voté cette loi en urgence, et elle est inscrite, n'est-ce pas, aussi en urgence au niveau de la Chambre basse. Mais ce qui est important, c'est que nous venons de l'aborder, c'est la problématique de la sécurité aérienne congolaise, avec le foula-foula aérien et tous les avions qui font des crashs chaque jour. Les pays, le Congo, c'est un pays continental, 2 345 000 km², et il nous faut une politique aérienne pour, n'est-ce pas, relier l'ensemble du territoire dans le cadre de l'aménagement du territoire. Nous avons 5 aéroports soi-disant internationaux, Djili, Goma, Kisangani, Lubumbashi et Badolité. Badolité aujourd'hui ne reçoit même pas un seul avion. Goma, nous savons dans quel état il se trouve. Vous avez suivi d'ailleurs les amis de Wabora, savent qu'il y a eu un crash avec un de leurs avions qui a posé d'ailleurs beaucoup de problèmes. Ne parlons pas de Lubumbashi, c'est le gouvernorat provincial qui tente d'arranger. Donc tout cela nous démontre qu'il y a une pathologie sérieuse qui, n'est-ce pas, grève notre secteur aérien, aussi bien au niveau de la politique économique que de la politique infrastructurelle. Et c'est cette volonté qui doit y être. Au-delà de cela, qu'est-ce que nous voyons? L'arnaque pour nous prendre $50 par client qui sort du Congo, $10 pour tous ceux qui voyagent à l'intérieur, pour des chantiers hypothétiques dont on ne voit pas l'effet depuis lors. Donc c'est tout cela qui nous pose problème. Et qui, n'est-ce pas, c'est terrorise par des épiphénomènes comme celui que vous soulevez, où une société est obligée de faire de gymnastique assez compliquée, de passer par les Émirats ou d'aller dans un pays comme Sao Tomé, parce que son propre pays est incapable de lui fournir une sécurité, une couverture sécuritaire d'assurance et autres, par absence d'une politique globale, cohérente et rationnelle. Voilà un peu notre problème. Bon, on peut discuter sur des épiphénomènes comme celui-là, et Wabora. On peut épiloguer sur la sécurité des avions des Wabora, mais il suffit de faire un tour à l'aéroport de Dili pour voir tous ces cercueils d'avions qui traînent, tous ces mécaniciens qui sont en bas, et ces films, ces documentaires qu'on montre en Europe sur la situation aéroportuaire congolaise, et juste sur la conscience, et sur le ces décideurs, et voilà pourquoi une société comme FN profite de cela pour casser en termes de concurrence un jeune homme. Il faut dire que ces derniers temps, l'approche de Wabora est assez d'une vigueur. On dit qu'on va prendre 60 kilos, 40 kilos à deuxième vitesse. Les prix sont rabattus. Et tout ça, c'est pas pour faire plaisir à SN. Et voilà comment son gouvernement tente de le sauver en passant par des acrobaties et des approches latérales ou stratégies latérales avec les pressions sur Sao Tomé. Voilà un peu la problématique.
Merci, professeur. Il nous reste 3 minutes pour terminer cette émission. Stavros Papayohanou, vous avez dit que c'est l'aéronautique congolais qui a été blacklistée, mais quelles sont vos propositions pour qu'elle soit rayée de cette liste?
D'abord, je voudrais quand même apporter une précision sur les accidents, parce qu'on parle beaucoup des accidents ici. Sachez une seule chose, c'est que les accidents ici au Congo, les 90% des accidents, ce sont des accidents CFIT. Alors CFIT, ça veut dire,
c'est-à-dire
CFIT, ça veut dire que les avions, le control fly into ground, ça veut dire qu'il y a eu le contrôle jusque à l'impact. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une panne technique, c'est pas une erreur technique de l'avion, c'était une erreur humaine. En d'autres termes, les 90% des accidents que nous avons ici, ce sont des erreurs humaines. Alors, pour rectifier déjà les 90% des accidents, il suffit d'avoir déjà des bons entraînements et adéquats pour les pilotes. C'est déjà les 90% que nous avons déjà résolu. Maintenant, en ce qui concerne pour la résolution, il faut commencer par ce que nous venons de dire, que nous sommes tous d'accord, par la loi. Commençons d'abord par la loi, commençons par le texte, et le reste va suivre.
Alors, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire? À quoi peut-on s'attendre? Il y a des clients de Wabora qui avaient déjà acheté leur billet, par exemple, pour cette semaine. Comment cela va se passer?
Écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est que vraiment, je souhaite que le gouvernement prenne toutes les mesures qu'il faut pour que les passagers de Wabora qui sont restés en rade ici et ceux qui sont en rade à Bruxelles puissent rentrer par les moyens de celui qui a causé tout ça, c'est-à-dire Bruxelles Airlines.
Mais le Premier ministre, vous l'avez rencontré, hein? Qu'est-ce qu'il a dit concrètement sur ça?
Il a pris acte de notre demande, comme on peut dire chez nous, et nous attendons maintenant la réaction maintenant du Premier ministre.
Professeur Jacques Joly, qu'est-ce qu'il faut concrètement, en dehors de la loi, hein, pour que l'aéronautique congolais soit rayée de cette blacklist?
La loi, elle est faite par les hommes. La loi ne vaut que ce que valent les hommes qui vont l'appliquer. On peut avoir la plus belle loi, mais si les hommes appelés, n'est-ce pas, à appliquer ces lois sont dominés par des considérations extra-juridiques ou métajuridiques, eh bien, vous arriverez à la même situation et la loi sera aussi juste un alibi. Moi, ce que j'espère, que le Premier ministre ne se contente pas de prendre acte. Sinon, je vais encore dire qu'il est dans l'immobilisme. Il faut qu'il agisse pour trouver des solutions à très court terme, mais aussi qu'on développe finalement la politique nationale en matière de transport
sur le plan global, interne et international, surtout de la politique nationale en matière d'aviation. Qu'on nous dise clairement quel sera le schéma pour le lac. Qu'on nous dise clairement ces partenariats parfois confus avec le Zimbabwe Airlines ou les autres. Qu'on nous dise comment on va soutenir les privés,
merci,
comme Eurabora qui s'élance depuis des années, qui tente de sauver le secteur aérien. Comment ferions-nous, nous, pour aller à l'intérieur? Est-ce que cela compte sur la gravité?
Merci, professeur. Nous sommes obligés de vous couper. C'est la fin de cette émission. Merci à Stavros Papayohannou, patron d'Ewabora. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Bonne suite au programme sur Radio Okapi.